Voilà. Alors, est-ce que vous aviez des questions déjà sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ou ça va? C'est bon? Voilà, on a vu que Dieu peut accélérer donc des processus qui pourraient mettre des mois ou des années pour se réaliser. Donc, en fait, je reviens à ce que nous disions par rapport à l'âge de l'univers, qu'il est difficile d'estimer, de savoir exactement comment Dieu a fait. Et je reviens à cette thèse de ceux qui pensent que l'univers est très jeune, c'est-à-dire 10 à 20 000 ans. Sur quoi se base-t-il? Est-ce que tu peux mettre l'image suivante? Sur quoi se base-t-il pour affirmer que l'univers est très récent? Premier facteur, il se base sur les datations radiométriques du carbone 14 qui, selon eux, ne seraient pas fiables. Le taux de décroissance carbone de la réa de décroissance radioactive du carbone 14, donc, pourrait ne pas être constant, parce que c'est une loi qui est constante, il faut que les choses soient constantes dans le temps pour que les calculs soient valables. Donc ils estiment que le carbone 14 ne serait pas constant depuis le début de la création, à cause du péché, de la malédiction, qui aurait introduit des variations dans la radioactivité des êtres vivants. Deuxième élément sur lequel il se base pour dire que l'univers est plus récent, c'est le déluge. La catastrophe du déluge aurait bouleversé les données des calculs, puisque il y a eu une forte pression sur le sol, sur les sédiments, ça a faussé la datation, puisque par exemple le charbon et les diamants se seraient formés plus rapidement que les millions d'années avancées par la science. Bon. Côté de ceux qui disent que l'univers est très ancien, c'est-à-dire 13,8 milliards d'années, il s'appuie essentiellement sur les découvertes scientifiques. Alors, on va passer à l'image suivante. Car il y a un élément à prendre en considération, et ici, c'est un géologue évangélique qui s'appelle Davis Young, qui explique ceci. C'est qu'à partir d'éléments de roches qu'on a prélevés sur la Lune et qu'on a comparés avec celles qui sont sur la Terre, on peut comprendre que la Lune n'a pas été impactée par le déluge, puisqu'elle n'était pas en relation, elle n'était pas sur la Terre. Donc il dit, la datation radiométrique de roches trouvées sur la Lune et de météorites récemment tombées sur la Terre qui n'ont pu être affectés par le déluge de Noé, coïncident avec de nombreuses autres mesures radiométriques faites sur divers matériaux terrestres, et que le résultat de ces tests concourt remarquablement à indiquer environ 4,5 à 4,7 milliards d'années, ce qui fait qu'il y a quand même une corrélation, un faisceau d'indices qui va plus dans le sens des 4,7 milliards d'années pour la Terre. En tout cas, l'argument du déluge tombe à l'eau, si je puis dire, avec ce prélèvement de la Lune, puisque la Lune n'est pas affectée par le déluge. Donc on devrait avoir une différence quelque part, qui n'est pas. Donc ça laisse quand même priorité à l'interprétation d'un univers au moins qui est âgé, qui est ancien, qui a un certain âge. D'autres raisons penche dans le sens d'un univers ancien, c'est que la lumière des astres met du temps à arriver jusqu'à la Terre. Il y a par exemple 8 minutes d'écart quand vous regardez le Soleil. Rien que du Soleil pour arriver à la Terre, il faut 8 minutes. Mais encore, le Soleil, il n'est pas très loin par rapport aux autres étoiles et aux autres galaxies. Donc, il y a des fois des centaines de milliers d'années que parcourt la lumière pour arriver jusqu'à la Terre. Donc, ça nous parle de temps. Le mouvement des étoiles, le temps nécessaire au refroidissement du magma liquide, la formation des fossiles. Il faut du temps pour que les fossiles se forment. La dérive des continents, le développement des récifs coralliens, etc. Donc en fait, tout se conjugue dans une même orientation, c'est que l'univers est assez ancien. Il aurait donc plusieurs milliards d'années. Que conclure sur cette question ? Effectivement, on peut croire que Dieu est assez puissant pour créer instantanément quelque chose qui peut avoir l'âge de très ancien, mais personne ne peut dire si Dieu l'a fait ou pas. En tout cas, Dieu peut aussi utiliser le temps pour arriver à sa création actuelle. C'est pour ça qu'on va reparler de ces différentes interprétations, notamment au niveau du mot « jour » dans le récit de la création, puisque le mot « jour » peut être interprété plus ou moins de manière relâchée, pas forcément 24 heures. Mais on a terminé avec la présentation du créationnisme, c'est-à-dire que Dieu a créé toute chose. Le créationnisme ne signifie pas nécessairement que l'univers est très récent. Le créationnisme, c'est juste l'affirmation que Dieu a créé l'univers. Alors, est-ce qu'il l'a créé sur une durée très longue ou très courte ? Après, ça, c'est un paramètre, on peut dire, qui nous échappe. Mais néanmoins, que Dieu a créé l'univers, ça reste une donnée importante. On va parler de la deuxième thèse, donc maintenant, l'évolutionnisme. Qu'est-ce que l'évolutionnisme ? Donc, on va passer à l'image suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie de l'évolution ? La théorie de l'évolution, c'est d'expliquer que toute forme de vie part d'une cellule souche, en fait, qui s'est démultipliée et qui a permis l'existence de la vie. Les espèces supérieures sont apparues grâce à l'évolution des espèces inférieures. Donc, en fait, à l'origine, tout est parti de l'apparition, le surgissement de la matière et de l'énergie d'abord. Avant la matière, il y a l'énergie et ensuite la matière. Puis, de la matière a surgi une cellule vivante, la première, qui s'est, c'est ce qu'on appelle la cellule primitive, qui s'est subdivisée en d'autres cellules, qui a généré la vie. Voilà, ça c'est l'histoire de l'évolution. La vie s'est répandue par ces cellules dans des petites, d'abord des petits éléments, puis se sont devenus de plus en plus grands, de plus en plus forts, et la vie s'est répandue à tous les êtres vivants. Tout cela s'est fait sur des millions d'années, et le mécanisme de l'évolution s'est fait par sélection naturelle, allant toujours du plus simple au plus complexe. Dans sa structure, l'homme s'est le plus élevé, évolué le plus complexe de tous les êtres vivants. Alors on va passer à l'image suivante pour vous montrer un petit peu les discours concernant l'évolution. C'est d'abord les différentes formes... Ouais, tu peux encore passer. On va voir maintenant le deuxième point, les différentes formes d'évolutionnisme. Donc, vous avez Jean-Baptiste Lamarck, bien sûr, ça a été le premier, on peut dire le précurseur, avec le transformiste. Il estimait, lui, qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour expliquer l'origine des êtres vivants. La nature, il dit que la nature en elle-même porte la vie et qu'elle est capable de se démultiplier. C'est la nature qui a permis l'apparition des premiers êtres vivants par génération spontanée. En fait, on pourrait dire que son Dieu à lui, entre guillemets, son Dieu ou son créateur, c'était la nature. La nature a remplacé Dieu. Il n'a pas besoin, lui, de Dieu, il ne croit pas en Dieu. La thèse de Lamarck, donc, comprenait deux axes. Premièrement, complexification. L'évolution va toujours du plus simple au plus complexe. Il pensait que les organes et que les animaux, en fait, évoluaient en fonction de leur environnement très progressivement sur des millions d'années. Par exemple, la girafe, qui a ce long cou, qui, selon lui, s'était développée sur des milliers d'années pour attraper les feuilles qui étaient en hauteur, et petit à petit, avec les générations successives, le cou se serait allongé. Et puis, la diversification des caractères acquis qui se transmettent aux générations suivantes. Mais ça n'était qu'une première ébauche, et beaucoup de ces, notamment pour la girafe, beaucoup de ces recherches ont été démontées par le suivant, qui s'appelle Darwin. Qui n'a pas entendu parler de Charles Darwin ? C'est le père de la théorie de l'évolution. Il date, ça se passe en 1859, il écrit « De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ». Voilà, ça c'est la clé de la théorie de l'évolution, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire les plus résistants, les mieux, les plus combatifs, eux, ils vont survivre, les moins forts, les plus faibles, ceux qui servent le moins, ils vont disparaître. C'est la sélection naturelle. Il réfutait les arguments du pasteur William Paley, et sa théorie naturelle. Alors, on va voir l'image suivante, qui soutenait le développement des espèces par l'intervention divine. Alors, Palès, c'est un pasteur, vous le voyez en haut à gauche. Et il utilisait l'argument de la montre. Peut-être l'avez-vous entendu, cet argument. Il disait ceci: si vous trouvez une montre en plein désert, personne ne dira que cette montre est le fruit du hasard. Mais on vous dira nécessairement, à cause de son mécanisme, que ça a nécessité le travail d'un ouvrier, que cette montre a été conçue par un ingénieur et qu'elle a été faite dans un but précis. Voilà. Si vous trouvez une montre en plein désert, vous ne direz pas qu'elle est arrivée là par hasard, mais vous verrez derrière la montre celui qui l'a inventé et celui qui l'a mise en œuvre. Eh bien, il dit c'est pareil pour l'univers. Quand on voit comment l'univers est coordonné un petit peu de manière, j'allais dire comme une montre, un petit peu régulière, avec des lois, eh bien, il dit ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est donc qu'il y a un créateur qui a mis en place ces choses dans un but précis. Et c'était son argument. Donc, Darwin conteste cela. Et pour lui, il n'y a pas besoin de Dieu. Il n'y a pas besoin de Dieu, mais il va remplacer en fait tout simplement Dieu par le hasard. Car tout est venu par hasard. Par hasard, l'énergie a surgi du néant, par hasard ça a produit la matière, par hasard de cette matière a surgi la vie. Mais en fait vous êtes obligé de mettre le hasard à chaque étape de l'évolution, sinon la théorie ne tient pas. Donc c'est une succession de hasards plus prodigieux les uns que les autres. La cellule souche est venue à l'existence par hasard. Elle s'est reproduite elle-même. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais c'est par hasard. C'est une succession de choses impossibles quasiment, mais bon, qui est maintenue dans cette théorie. Les formes de vie les mieux adaptées donc, vont résister le mieux. Les autres vont disparaître. Voilà, c'est toute la théorie de l'évolution. Et ces choses vont se faire sur des millions d'années. Donc là, il rejoint la marque. J'arrive au point suivant. Je ne sais pas si j'ai une image. Je ne crois pas. Non, ce n'est pas tout de suite. Ce sera encore après cette image. On arrive à une autre théorie qu'on appelle la théorie des équilibres ponctués. Après les diverses formes d'évolutionnisme, en fait, il faut savoir que même la théorie de Darwin a été remise en question par les successeurs de Darwin qui sont venus donc bien après. Pourquoi ? Parce que dans la pensée de Darwin, les choses évoluaient lentement sur des millions d'années ou des millions d'années et les choses évoluaient progressivement. Or, ils se sont rendus compte, les paléontologues, que certaines espèces demeuraient inchangées sur des centaines de milliers d'années ou des millions d'années et que d'un coup, il y avait comme des sauts et à nouveau des plateaux où ça ne bougeait pas. Et ces brusques changements ont permis l'émergence de nouvelles espèces. Mais toutefois, personne ne sait pourquoi, à certains moments, ces espèces, tout d'un coup, ont évolué rapidement et puis après n'ont plus évolué pendant des années. Donc, la théorie de Darwin a été remise en question par ses successeurs. La pensée suivante, c'est donc l'image qui est diffusée, c'est la théorie de l'évolution théiste. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la théorie de l'évolution, telle qu'elle est présentée par Darwin et ses successeurs, c'est-à-dire... c'est le hasard, et la théorie de l'évolution théiste, on rajoute le mot théiste, ça vient de théos, Dieu, c'est-à-dire qu'ils croient dans la théorie de l'évolution, mais au lieu du hasard, ils disent que c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a permis à cette cellule d'apparaître, et puis, mais on continue à garder l'évolution, cette cellule s'est développée, a commencé à se transformer en différents animaux, les animaux sont sortis de l'eau, etc. Et ça a débouché sur des singes, des primates, qui a débouché à l'homme. Enfin, toute la théorie de l'évolution, elle y est. Sauf qu'ils mettent Dieu dans cette affaire. Ça, c'est aujourd'hui l'Église catholique. Non, il faut que tu reviennes en arrière. L'Église catholique avec le pape Jean-Paul II, bon, qui est décédé depuis, mais qui affirmait que la théorie de l'évolution, c'est plus qu'une hypothèse, et même des croyants adhèrent donc à la théorie de l'évolution. Certains théologiens protestants ont aussi tenté de concilier les découvertes évolutionnistes avec l'intervention divine, Donc, comment on fait ça? Eh bien, on dit que Dieu est intervenu à certaines étapes clés, mais après, il a laissé l'évolution se faire, et lui, il s'est tenu à l'écart. Alors, maintenant, tu peux mettre l'image suivante. Un théologien qui s'appelle Jürgen Moltmann, voilà, Dieu se tient en retrait de sa création, il a mis tout le potentiel pour que ça évolue tout seul, et lui, il se tient à l'écart. Bon, c'est sa pensée, c'est son interprétation du thème. Et je vous donne un autre auteur qui s'appelle Howard Van Til, aussi un théologien protestant. Selon lui, la création a en elle-même tout le potentiel évolutif. Il dit que Dieu a créé le monde et la matière, donc on parle bien de Dieu, avec des potentialités auto-évolutives, auto-organisatrices, qui se déploient dans le processus de l'évolution. Les atomes, les molécules, les cellules, organismes vivants sont dotés des capacités nécessaires pour rendre possible le développement évolutif continu. Alors on pourrait dire que la position de l'évolution théiste, c'est un peu un mélange entre l'évolution et la Bible. Est-ce que Dieu dit que Dieu a créé? Voilà, on mélange les deux choses pour aboutir à cela. Dernière théorie, c'est celle du dessein intelligent. Dans les années 1990, il y a des scientifiques américains qui ont eu une autre approche que celle de l'évolution. Ils ont remis en question donc cette évolution où le hasard, je l'ai dit, joue un rôle de premier plan. En fait, il faut un hasard extraordinaire et un hasard à chaque étape de l'évolution. Et ils expliquent ceci, ce sont donc pas nécessairement des croyants, attention, ce sont des scientifiques, mais ils expliquent que l'univers, dans sa complexité, s'explique mieux par une cause intelligente qui est à l'origine de ce que nous voyons, plutôt qu'un processus aléatoire comme le hasard. Ils ne croient pas dans le hasard, sans toutefois croire en Dieu encore, en tout cas pour l'instant, mais ils en arrivent à la conclusion en observant tout simplement le mécanisme de l'univers, que c'est un petit peu comme croire que cette montre, elle est arrivée là dans le désert par hasard. Ce n'est pas possible. Quelque part, scientifiquement, ce n'est pas possible. Certains exemples de complexité ne trouvent aucune réponse avec l'évolution. Et cette approche n'est, je le dis, ni théologique, ni philosophique, mais scientifique et pragmatique. Alors, eux, ils ne perçoivent pas nécessairement un Dieu ou une intervention de Dieu, mais ils parlent de intelligent design ou dessin intelligent ou cause intelligente. Alors, je vous ai cité un de ces auteurs qui s'appelle Michael Danton, qui est un des représentants de cette école. Michael Danton. Toutes les données à notre disposition suggèrent que les caractéristiques chimiques et physiques de tous les atomes, de toutes les molécules qui constituent les êtres vivants, doivent être précisément ce qu'elles sont, sans quoi la vie serait impossible. Globalement, l'impression de dessin est irrésistible. Voilà. C'est un scientifique qui a une autre approche, mais qui nous intéresse, nous chrétiens, parce qu'il voit derrière la structure, les lois naturelles, le fonctionnement de l'univers, quelque chose qui ne peut pas être le fruit du hasard. Il n'est pas encore à parler de Dieu, parce que ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé l'univers. Il faut toujours la foi. Mais en tout cas, il rejette la thèse principale évolutionniste comme quoi c'est le hasard qui a permis que tout cela se produise. Donc, je trouve que c'est intéressant de le mentionner. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Où ça va? On a vu les quatre grandes interprétations par rapport à ce sujet de l'évolution, entre l'évolutionnisme, l'évolutionniste théisme ou le dessin intelligent. Est-ce que tout est clair? Alors, une question, Elsa. Vas-y, prends le micro. Attends, prends le micro parce que on enregistre.
Vous avez parlé de la théorie des équilibres ponctués. Et du coup, oui. J'ai pas très bien compris à quelle partie ça fait référence.
Alors, la partie des équilibres ponctués, en fait, c'est une remise en question du darwinisme. Pourquoi? Car dans la théorie de Darwin, dans sa pensée, l'évolution se faisait sur des millions d'années, mais de manière linéaire. Un petit peu comme une courbe, vous voyez, qui va progressivement montant. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Les paléontologues ont vu qu'il y avait des zones où il y avait pas d'évolution sur des millions d'années, et ensuite des évolutions très rapides sur des périodes très courtes. Donc ces équilibres ponctués, ils se situent après Darwin, ils ont étudié la théorie de l'évolution et ils ont constaté que cette théorie n'est pas juste dans sa présentation. Il n'y a pas une évolution linéaire sur des millions d'années comme c'était cru. Mais comment est-ce que ces évolutions rapides sur des temps assez brefs se sont faites? Pourquoi? Voilà, ça c'est un mystère encore qui échappe, mais en tout cas, elle n'est pas linéaire. Elle n'est pas comme Darwin l'avait conçue dès le départ. Voilà, c'est ça. OK? Merci pour ces questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, prends le micro, vas-y. Emmanuel.
Merci. Moi, ma question, c'est sur la période de la création.
Oui.
Est-ce, avec la Bible, on ne peut pas voir la réponse à cette question?
La date, tu veux dire? La date de la création.
Exactement. Parce que la Bible fait une analyse généalogique.
Voilà, c'est ça.
À partir d'Adam jusqu'à la naissance de Jésus-Christ.
C'est ça.
Est-ce qu'à partir de cette base-là, on ne peut pas supposer avoir une date qui serait biblique et précise, qui pourrait éclairer la lanterne de...
Ben, on a tenté de le faire. On a tenté de le faire et donc on arrive à 4004 environ, 4004 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que dans les généalogies, on n'a pas tous les éléments. On a des sauts de généalogie. Il y a des fois des... Comme je l'ai dit, par exemple, pour Joseph, dans le Nouveau Testament, Joseph, qui était le mari de Marie, qui était la mère de Jésus, Joseph, il est dit qu'il était fils de David, alors que David, il était 1000 ans avant lui. Donc, on a plusieurs paramètres qui nous montrent qu'on ne peut pas avoir un calcul très fiable. Néanmoins, la tendance serait que la création d'Adam, si on tient compte de ces généalogies, ne remonte pas non plus à des millions d'années.
Donc la Bible se rapproche plus à la thèse de 4000, bien que ce n'est pas très précis.
Oui, à mon avis, oui. Mais il y a d'autres paramètres voilà, qui nous échappent. Notamment, on va parler de ces grands nombres, vous savez, ces âges qui sont mentionnés pour les premiers, ce qu'on appelle les antédiluviens, ceux qui sont venus avant le déluge. Ils avaient des âges jusqu'à 900 ans. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie aussi? Est-ce que c'est à prendre au pied de la lettre ou est-ce que ce sont des chiffres qui sous-tendent un calcul spécifique? Ce qui est tout à fait possible, mais on va en parler tout à l'heure.
Merci.
Voilà. Donc je dirais la réponse à ta question, est-ce qu'on peut affirmer un âge? Non. Est-ce que l'âge serait très lointain? Non plus. Néanmoins, il faut dissocier la création de l'homme qui arrive le sixième jour de tout ce qui précède. Et intervient la notion des jours. Ces jours sont des jours-périodes qui ne sont pas nécessairement des jours de 24 heures. Car dans tous les calculs qui sont faits, ils considèrent que les 6 jours sont des jours de 24 heures. Donc effectivement, ça réduit considérablement le temps. Et eux, ils affirmaient que l'univers avait été créé donc en moins 4 ou 5 000 avant Jésus-Christ, ce qui est vraiment très récent. Même les scientifiques qui sont le plus arc-boutés à maintenir une date récente de l'univers, ils reculent jusqu'à 10 à 20 000 ans. Mais pourquoi 10 à 20 000 ans? À partir du moment où on recule, je ne sais pas sur quelles données il se base, parce que il n'y a aucun chiffre qui va dans ce sens-là, dans la Bible en tout cas. Les seuls chiffres qu'on a, si on remonte à Adam, 4 000, 5 000, si on peut retirer jusqu'à 5 000, ça serait vraiment le grand. 5 000 avant Jésus-Christ. Alors après, est-ce qu'il y a des chiffres symboliques? On va en parler tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des paramètres qui nous échappent? C'est possible. On n'a pas toutes les données. Il faut rester humble. C'est un sujet tout à fait... On risque de ressortir avec plus de questions que de réponses. Parce que c'est un sujet, plus on réfléchit, plus on a des questions qu'on n'a pas de réponses. Oui, une autre question. Le micro, s'il te plaît, pour l'enregistrement.
Où peut-on situer, justement, la préhistoire, l'homme de Cro-Magnon,
ah oui,
par rapport à la création?
Alors, tout à fait. Alors, ce que j'explique, et on va en reparler, parce que j'ai un point spécifique là-dessus sur les primates et tout ça. Donc, on peut la créer au niveau des animaux, parce que tout ce qui est avant Adam, en fait, c'est du monde animal. Adam, c'est le premier être humain, en tout cas. Dieu a créé l'homme et la femme. mais il peut y avoir eu des animaux évolués qui ne sont pas l'homme. Où des singes ou des primates sont capables de faire des choses évoluées, mais ne sont pas encore la création de l'homme que Dieu a déterminée. Bon, ça, on va en reparler parce que j'ai des trucs spécifiques. Alors, on va pouvoir continuer. Je voulais voir les difficultés maintenant posées par la théorie de l'évolution. Première difficulté, on l'a dit, est-ce que tu as l'image ? L'image suivante. Voilà, difficulté. Alors, difficulté. Quelles sont les difficultés soulevées ? Alors, première difficulté, je l'ai dit, c'est la prépondérance du hasard. La théorie de la sélection naturelle nécessite une succession de hasards plus incroyables les uns que les autres. L'image suivante. Ici, c'est un scientifique évolutionniste qui s'appelle Howard Morowitz. Il a établi un modèle de probabilité pour la formation du plus petit être vivant par processus aléatoire. Alors, il y aurait une chance sur 340 millions que la chose se produise. Vous voyez le hasard un peu ce que c'est. Une chance sur, avec un 10 et 340 millions de zéros derrière. 10 puissance 340 millions. Non, ce n'est même pas 340 millions, c'est un chiffre tellement élevé que voilà. Pourtant, il est conscient que c'est quasi impossible, c'est une chance. C'est beaucoup plus de chances que de gagner au loto encore. Mais il continue à croire fermement que les choses se sont passées ainsi. Morowitz. Ralph Challis a dit « Il faut beaucoup de foi pour être athée. » Au contraire, la Bible nous parle d'un Dieu créateur qui fait tout pour un but précis. En fait, si vous regardez la création, il n'y a aucune place pour le hasard. C'est le contraire de ce que croit ce scientifique qui est obligé de mettre le hasard à la place de Dieu. La deuxième difficulté, c'est l'absence des fossiles intermédiaires. On parle des difficultés de la théorie de l'évolution. Pour que la théorie de l'évolution soit confirmée, il faudrait trouver des multiples formes de fossiles intermédiaires entre les espèces. Or, de nombreux fossiles anciens sont identiques aux animaux actuels. Il y a un professeur qui s'appelle David Keats, professeur d'histoire de la science aux États-Unis, Université d'Oklahoma. Il disait ceci, l'évolution nécessite des formes intermédiaires entre les espèces et la paléontologie ne les a pas fournies. David Ropp, un autre auteur que vous avez sur le diaporama, lui, il est professeur de paléontologie mondialement reconnu. Il exerce à Chicago. Il écrivait en 1994, en 120 ans, environ 120 ans se sont écoulés depuis Darwin et notre connaissance du registre fossile s'est grandement améliorée. Nous comptons maintenant un quart de million d'espèces fossiles, mais la situation n'a pas beaucoup changé. Ironiquement, nous avons même moins d'exemples de transition évolutive qu'au temps de Darwin. Ce que je veux dire, c'est que dans certains des cas classiques de Darwin sur les changements dans les registres fossiles, comme l'évolution du cheval en Amérique du Nord, ont été rejetés ou modifiés une fois qu'on a eu des renseignements plus précis. Ce qui semblait être une progression simple quand on a relativement peu de données semble maintenant être beaucoup plus complexe et bien moins graduelle. Bon, ce sont des scientifiques qui font leurs propres recherches, leurs propres découvertes et qui constatent les difficultés de cette théorie. D'après l'écriture, en tout cas, c'est dit que Dieu a créé la verdure et les animaux selon leurs espèces. Il a créé directement de nombreuses espèces et l'évolution n'est pas mentionnée. On a dit tout à l'heure ce verset, car Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc on n'a pas d'indice dans la Bible d'une longue évolution, comme c'est mentionné par ces théoriciens. Troisième difficulté de cette théorie, et qui n'est pas des moindres, comment peut-on expliquer l'origine de la vie à partir de la matière morte ? Ça, c'est une question sans réponse. Car comment la matière morte, la matière ne contient pas la vie, a pu produire cette fameuse cellule où tout démarre ? Parce que dans la théorie de l'évolution, tout démarre d'une cellule qui est apparue dans l'eau, dans la mer. Et comment expliquer que la mer a produit une cellule vivante ? Voilà. C'est tout à fait impossible à démontrer, à expliquer, et là, il faut une source de hasard tout à fait considérable. Les scientifiques tentent en vain de reproduire d'ailleurs cette vie en laboratoire à partir de manière inerte. Dans leurs expériences, ils essaient de placer les éléments dans les, on va dire, les conditions les plus favorables pour que l'expérience réussisse. Mais même combien même un chercheur arriverait à le faire, il faut quand même quelqu'un qui place les choses dans le bon sens et qui fasse... Enfin, il y a une intelligence derrière pour aboutir à quelque chose. Ce n'est pas du pur hasard non plus. C'est plutôt par une volonté. Donc ça démontrerait qu'il y a non pas le fruit d'un hasard, mais d'une volonté supérieure qui place les conditions nécessaires à, et puis s'attendant à ce que la chose arrive. De plus, il faudrait expliquer un autre problème avant celui-là, c'est comment est-ce que la matière est venue à l'existence par hasard ? Parce qu'on parle de la vie, mais avant la vie, il y a la matière. Et d'où vient la matière ? Puisqu'à l'origine, il n'y avait rien. Dans la théorie du Big Bang, tout est parti de rien. Donc, il faut considérer comment est-ce que la matière est venue à l'existence. Là encore, c'est par hasard. L'origine de la vie, c'est un mystère totalement inexplicable scientifiquement. Alors, j'ai mis une diapo suivante. Car la science ne peut pas apporter de réponse à cette question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Ça, il n'y a pas de réponse, mystère, en tout cas au niveau scientifique, sauf si on considère le verset qu'on a lu, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé de la parole de Dieu. Mais sinon, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? C'est la question sans réponse, en tout cas pour les scientifiques qui ne sont pas croyants. Ils ne peuvent répondre que c'est le hasard. Alors, on arrive à une autre question. Est-ce qu'on peut concilier l'évolution théiste, dont on a parlé tout à l'heure, et la Bible ? Je reviens sur l'évolution théiste. Donc, selon l'évolution théiste, Dieu se tient à l'écart de la création et la laisse évoluer par elle-même. Or, on a vu dans plusieurs textes que non seulement Dieu est là, mais qu'il soutient la création et qu'il lui permet d'évoluer. On peut dire que Dieu a un rôle actif dans sa création. On a dit qu'il soutient les hommes et les bêtes. On peut lire peut-être Matthieu, chapitre 6, verset 26, si tu veux le lire, Marlène, pour vous donner un autre exemple qu'on n'avait pas lu tout à l'heure. Matthieu 6, 26.
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?
Alors, vous voyez, les oiseaux, en fait, le Père, Dieu, les nourrit. Il en prend soin, il veille sur sa création. Donc, il est plutôt présent plutôt que laisser les choses évoluer par hasard. Il est plutôt à l'œuvre. L'évolution théiste affirme aussi que le Créateur aurait transformé progressivement les primates pour aboutir à l'homme. C'est ce texte de Genèse 2:7. Est-ce que tu peux le lire ? Genèse, chapitre 2, verset 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
Alors, ces personnes interprètent ce texte ainsi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et la poussière de la terre, pour eux, ce serait une image pour parler des primates qui se sont succédés jusqu'à l'homme. C'était la poussière de la terre. Bon, c'est assez audacieux de voir des primates ici dans la poussière de la terre parce que le texte est quand même forcé pour lui faire dire ce qu'on veut bien. Quand il est dit la poussière, d'ailleurs, elle est aussi mentionnée pour les animaux terrestres que Dieu a formés à partir de la poussière. La poussière de la terre était un matériau que Dieu a utilisé pour créer. Mais néanmoins, y voir ici l'évolution, c'est assez audacieux. Donc, les chrétiens convaincus par la Bible vont être un petit peu résistants à cette pensée. Et puis les scientifiques, ils n'y voient pas du tout d'intervention de Dieu. Donc, vous voyez, elle est un peu entre deux chaises. Le récit biblique de la création, en fait, ne présente pas l'évolution telle qu'elle est présentée par la science. Elle expose plutôt une création de Dieu, création que Dieu a créée d'abord, je l'ai dit en tout début pour vous qui étiez là, dans le récit de la création Genèse 1, on a 6 jours, mais 2 fois 3 jours. D'abord les espaces et ensuite ce qui va remplir les espaces. Les 3 premiers jours, ce sont les grands espaces, que ce soit la terre, la mer, et ensuite et le ciel, et ensuite ce qui remplit ces espaces, donc le soleil, lune pour le ciel. Dans la mer, il y a les poissons et tous les animaux marins. Et puis sur la terre, il y a les animaux terrestres. Bon. Voilà comment la Bible présente la création. Même s'il peut y avoir une certaine évolution, parce qu'on reconnaît que l'homme a évolué par les techniques, par les progressions qu'il a pu connaître, en réalité, le cœur de l'homme n'a pas évolué. Le cœur de l'homme est toujours loin de Dieu, pécheur, et il a toujours besoin d'être sauvé. Donc la Bible, elle nous parle d'une chute, que l'homme, il a été créé bon, parfait, sans péché, et qu'il s'est détourné de Dieu, qu'il est devenu pécheur, et depuis, Adam et Ève ont engendré des pécheurs. Et le péché est attaché au cœur de l'homme. Donc elle nous parle d'une déchéance morale et spirituelle. Or, Dieu a créé Adam et Ève avec des facultés physiques, morales et spirituelles. Directement, Adam peut parler, il peut nommer les animaux, il peut garder le jardin. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le contexte des créations mi-homme, mi-animal, ou mi-singe, mi-homme, qui vont aboutir à la théorie de l'évolution des espèces. Selon Meyer-Perlman, il y a un abîme infranchissable entre la brute et l'homme, entre la forme la plus élevée de l'animal et la forme la plus basse de la vie humaine. Ce qu'on peut rajouter, c'est que l'évolutionnisme est une hypothèse, de toute manière, qui est basée sur des observations, mais ça ne reste qu'une hypothèse, car il y a des éléments qui échappent aussi à cette recherche de l'origine de l'homme. La science, elle consiste à observer les ossements, par les lois naturelles, tout ce qui existe dans le monde. Mais elle ne permet pas d'expliquer les surgissements de la vie et comment est-ce que la vie apparaît. La philosophie, elle, va se concentrer sur des réflexions, sur comment, pourquoi on est là, quel est le sens de la vie. La science, elle, cherche des théories avec l'observation. Mais l'origine de la vie échappe au monde scientifique. C'est pourquoi les hypothèses sur l'origine de la vie sont davantage de l'ordre spéculatif et philosophique que scientifique. On n'a pas toujours la réponse. En tout cas, la Bible n'est pas un traité de science pure. C'est un traité, c'est la parole de Dieu, c'est avant tout spirituel. C'est pour notre âme, pour notre édification. C'est comme ça qu'a été conçue la Bible. Même dans le récit de la création, on va le voir cet après-midi, c'est que le 7e jour est mis en avant, c'est le jour du repos, et ça va devenir le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour réservé à Dieu. Même dans la création, en fait, ça nous parle de réserver un jour pour adorer Dieu. Donc la Bible, son but, ce n'est pas tellement un discours scientifique, même si ce qu'elle dit est juste, parce que c'est la parole de Dieu, mais elle va plutôt nous mettre en relation avec un créateur et nous dire, voilà, l'univers n'est pas là par hasard. Il y a Dieu derrière, il y a un créateur qui a tout fait. Elle n'est pas en contradiction avec les lois qui sont découvertes dans la nature. Il faut se rappeler que la science est en constante évolution, tandis que la parole de Dieu est toujours la même. Alors j'ai une image à vous présenter, c'est Galilée. Galilée disait ceci, « L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel et non comment va le ciel. » Et c'est ça la Bible. Comment être en relation avec Dieu, comment est-ce qu'on va au ciel, mais ce n'est pas un traité d'astronomie, ce n'est pas un traité scientifique. Ça existe, ces traités-là, et ils sont dans le monde. Voilà. Et une dernière question, peut-être, après je vous laisserai des questions, questions-réponses. Qui se cache derrière le dessein intelligent? J'en ai parlé tout à l'heure de ces scientifiques qui ont rejeté l'évolution en disant ce n'est pas possible que ce soit par hasard. Il y a forcément une intelligence, il y a forcément une conception derrière ces choses, le dessein intelligent. Alors, la théorie du dessein intelligent, elle est assez séduisante au premier abord, parce qu'elle dépasse l'évolution. Elle dépasse l'évolution en disant ce n'est pas le hasard. Il y a donc une volonté, il y a un dessein, il y a un but. Mais elle reste au niveau du questionnement. On pourrait dire que c'est une approche agnostique. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Agnostique, c'est on ne peut pas savoir s'il y a Dieu ou pas. Agnostique, c'est le questionnement. Ils sont plutôt dans une approche agnostique. Cette approche fait bien de rejeter le hasard parce que nous ne croyons pas que nous sommes le pur fruit du hasard. Il y a vraiment un but, il y a vraiment un créateur derrière. mais elle ne va pas jusqu'à croire en Dieu. Elle ne dit pas que c'est Dieu qui est à l'origine de la création. Elle parle plutôt d'information, où avant le Big Bang, il y avait des nombres, de l'information. En tout cas, on n'est pas dans le domaine du Dieu créateur qui est révélé dans la Bible. Alors, ce que nous, on croit, c'est qu'effectivement, avant la création, Dieu a établi un plan. Et on croit qu'il y a, il y a ces restes dans la création. Il y a ces restes d'une structure qui a été pensée comme un créateur a pensé cette montre dont on parlait tout à l'heure. Il y a donc un concepteur qui était là. Et c'est normal de voir dans la création qu'il y a une intention. On voit dans la création qu'il y a, c'est pas le hasard, mais ça a été fait pour un but. Et que les lois sont là, pas par hasard, mais pour, en fait, que la vie apparaisse. Et que l'univers nous parle d'ordre et d'harmonie. Donc c'est normal que ces scientifiques trouvent dans la création des restes, finalement, du créateur, sans qu'ils puissent aboutir à dire « c'est un créateur, c'est un être Dieu ». Mais l'univers nous parle d'harmonie, et c'est pourquoi je termine avec ce verset, on peut le lire. Tu peux lire Hébreux chapitre 11, verset 3, je ne sais pas qui a le micro. C'est qui a le micro? Ah, Marlène. Alors c'est Hébreux chapitre 11, verset 3. Ce sera notre verset de conclusion, si on peut dire, pour ce matin.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Voilà. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Il y a donc un créateur, mais nécessairement, ça ne s'impose pas. Ça nécessite de notre part la foi. Est-ce que vous voulez croire ou ne pas croire? Et ça, c'est la liberté de chacun. Donc, plusieurs scientifiques sont arrivés à cette conclusion, ceux qui sont du tenant du dessein intelligent, de dire oui, nous reconnaissons que dans la création, dans ce que nous observons, il y a une finalité, il y a une logique, il y a donc derrière un dessein intelligent, mais il faut la foi pour croire en Dieu. Il ne faut pas simplement l'observation, c'est une autre dimension, on dira c'est une dimension spirituelle maintenant. Voilà concernant ces quelques points que je voulais partager. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions, hein, questions par rapport à ce sujet, par rapport à la création ou l'évolution, ou des points qui peut-être étaient un petit peu étranges et que... Voilà. J'ai prévu de parler sur les deux récits de la création cet après-midi. Donc, je ne pense pas nécessairement commencer maintenant, puisqu'il ne nous reste que 10 minutes avant la coupure. C'est pour vous montrer qu'il y a deux récits. Le premier récit qu'on a lu, Genèse 1, et il y en a un deuxième dans Genèse 2, qui est différent. Et on va voir comment s'organisent ces deux récits, et notamment, on va parler des 6 jours. Qu'est-ce que signifie le mot « jour » ? Est-ce que c'est limité à 24 heures ou est-ce que ce sont des périodes beaucoup plus longues qui peuvent être envisagées sous le terme jour? Et là encore, les interprétations en fait, qui existent de ces fameux 6 jours, il y a 4 interprétations possibles sur les 6 jours de la création qui existent. Et donc ça, on aura le temps d'en parler cet après-midi. Ah, une question. Vas-y.
Alors, parce que j'avais une petite question, j'aimerais avoir votre éclairage sur Genèse, le premier verset,
oui,
du premier chapitre.
Oui.
Non, le deuxième verset plutôt du premier chapitre.
Oui.
Là, je vois trois éléments.
Oui. Oui.
Les eaux, les ténèbres et l'abîme.
Oui.
Quand situeriez-vous la création de ces trois éléments par rapport à l'ordre des jours?
Alors, ces trois éléments sont une présentation générale. En fait, quand il est dit « Dieu créa les cieux et la terre », c'est un petit peu comme une introduction, si on peut dire. Il y avait cette forme, c'était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, il y a eu une création progressive qui s'est mise en place. En tout cas, l'introduction, c'est que Dieu a créé l'ensemble de ce qu'on va partager maintenant. Ça part d'une masse informe et vide, et puis ça va s'organiser. Ça va s'organiser avec la lumière, les ténèbres, avec l'eau. On pourrait dire que les deux premiers versets sont un peu une introduction, et qu'après, c'est l'ordre qui se met en place. Donc, je le situe plutôt dans une forme de présentation littéraire, pour expliquer, il va se passer quelque chose, il va y avoir un acte créateur, et ensuite la suite détaille un petit peu la manière dont la création s'est produite. Moi, je le situerai comme ça. Je ne situerai pas tout toujours d'une manière chronologique. Dans la Bible, des fois, vous avez des éléments qui viennent, par exemple, faire une amorce pour dire on va parler de ce sujet, et ensuite qui vont détailler ce sujet. C'est un petit peu le cas ici. Il y a une grande présentation d'ouverture. Dieu a créé les cieux et la terre, voilà. Dieu créa les cieux et la terre, c'est donc une présentation générale. Et puis, on va revenir dans quel ordre ça a été fait et de manière plus précise. Alors, est-ce qu'il y a encore une autre question ? On a encore un petit peu de temps. Hein.